Le territoire des Sikhs. Renforcer les dynamiques collectives et coopératives.
Comment animer des réunions efficientes et conviviales dans nos Sikhs?
Comme l'exprime Béatrice Ponsin, en introduction de son ouvrage « Plaisir d'être en réunion », tout un chacun fait l'expérience qu'il n'est pas si facile de faire ensemble, que cela ne va pas de soi. Certains sont déçus ou épuisés à force de réunions stériles qui deviennent des lieux où l'on s'ennuie, où l'on sort frustré. Or, une réunion porte l'enjeu du respect des individus, d'un collectif, d'un projet, d'une action et d'une vision politique. Pour ces raisons, elle est précieuse, tel un bien commun. Mais Béatrice Ponsin ajoute, chaque participant porte la responsabilité de la réussite d'une réunion, qui est dépendante d'innombrables facteurs.
En ce matin d'automne légèrement brumeux, nous sommes sur la place du marché. Avec cette animation. Et pour parler de réunion, est-ce que le marché, Béatrice, est finalement une forme de réunion?
C'est intéressant, parce que, comme question, parce qu'un marché, il y a des gens qui ne viennent pas pour les mêmes raisons. Il y a ceux qui viennent pour vendre, il y a ceux qui viennent pour acheter, tout ça est une évidence. Mais du coup, ils ont des rythmes différents, des enjeux différents. Il y a ceux qui se promènent tranquillement, ceux qui sont contents de se retrouver, qui discutent. Les gens qui font la queue, les gens qui marchent vite. Donc chacun a un rythme, une ambiance, des enjeux différents, un peu comme dans une réunion. La différence, c'est que les gens ne viennent pas pour un objet commun, même s'ils ont en commun de venir faire leurs courses ou de venir papoter. Mais ils n'ont pas un centre commun qui font qu'ils vont s'asseoir ensemble pendant un certain temps pour se raconter des choses au regard de ce qui les réunit. Et comment une réunion va être un endroit où on va créer des conditions favorables pour que les gens puissent mettre leur énergie au service de l'activité.
Même s'il y a un échange finalement marchand et un commerce au sens de la communication ou de la discussion, il n'y a pas finalement de production commune, il n'y a pas d'objet commun, il n'y a pas d'œuvre à faire, il n'y a pas de coopération.
Non, il n'y a pas de coopération, c'est vrai. L'objet commun... Un des éléments du triptyque que pour faire la coopération, ben, je, nous, projet. Et là, j'aime bien de le dire comme ça, parce que tous les trois, là, donc Tony qui réalise, Hervé qui organise ce temps-là et cette liaison avec les groupes, et puis moi qui viens témoigner, ben, on est en réunion, en fait. Hein, et chacun a contribué par son apport à faire que ce moment-là soit un moment, enfin, en tout cas pour moi, qui a été un moment plaisant.
C'est ce qui... m'avait attiré dans le titre « Plaisir d'être en réunion », ce qui paraissait presque étonnant, là où la réunion est souvent subie, hein, comme un moment, si ce n'est difficile, en tout cas un peu contraint.
Oui, oui, plaisir d'être en réunion, c'est provocateur. Et en même temps, c'est vrai, on peut réellement trouver du plaisir en réunion, tout en acceptant l'idée que toutes les réunions ne sont pas tout le temps réussies, super géniales, et que tout le monde ira retrouver exactement ce qu'il venait chercher. Hein. Je pense qu'il faut aussi lâcher avec le désir de perfection. Ce qui est important, c'est plutôt de se dire, tiens, globalement, dans ce groupe-là, dans cette organisation-là, nos réunions sont plutôt des moments où on a envie de se retrouver, parce qu'on sait qu'il va se passer des choses, on sait que ça va être utile pour soi quand on retourne dans ses propres missions. Et on sait que ben, voilà, ce que j'aurais fait pendant ce temps-là de réunion va m'enrichir. Et c'est ça qui va me donner envie de revenir et donc de ne pas être en retard. Parce que tout ça est très lié, en fait.
Sans viser la perfection, quels seraient les principaux points de vigilance, finalement?
Alors, les quatre principes clés qu'on pourrait retenir, ce serait d'être au clair avec l'intention, le pourquoi, et d'aligner le pourquoi avec... Donc, qui est la question du sens, avec le quoi, qui est le contenu et le processus, le comment on va le faire, en étant au clair avec le périmètre, c'est-à-dire qui est invité, qui participe à cette réunion. Ensuite, le deuxième point, ce serait une vigilance à ce que chaque personne se sente à l'aise. Ensuite, d'être attentif à la dynamique du groupe Et puis, sans oublier toutes les modalités pratiques qui vont favoriser aussi les conditions de la réunion.
Quatre grands points d'attention finalement. Ouais. Le premier justement étant sur l'intention de la réunion, comment on l'oriente, comment on lui fixe des objectifs, comment pourrait-on développer cette attention à l'intention.
Alors, un peu comme je le disais juste à l'instant, un marché n'est pas un lieu de réunion parce qu'il n'y a pas d'objet commun. Donc la première chose, si on se réunit, c'est qu'on a un besoin particulier de se rencontrer pour discuter de choses. Et c'est important de distinguer si on se réunit pour élaborer des idées, trouver des nouvelles pistes, donc être dans une dimension plutôt créative, ou si on se réunit pour délibérer d'un sujet, pour prendre une décision, pour recueillir de l'information. En fait, en tout cas, c'est déjà la première chose. C'est pourquoi on se réunit. Et puis ensuite, c'est de se dire qui on réunit. Qui sont les participants à cette réunion? Et en fonction de qui, en fonction du format de la réunion, combien de temps on va se donner, on va définir comment on va mener cette réunion, quel point de l'ordre du jour on va aborder. Très souvent, dans l'ordre du jour, il y a des points qui n'ont pas forcément nécessité d'être là tous ensemble pour en parler. C'est intéressant dans les structures les coopératives ou participatives que les gens participent à l'élaboration de l'ordre du jour, donc puissent dire quelques jours avant, voilà, moi j'aurais tel et tel point à aborder, je pense qu'en gros, on va devoir y consacrer une demi-heure, une heure, et puis j'aimerais qu'à l'issue de ce point, on ait pu prendre une décision où j'ai besoin que tout le monde ait bien compris l'information pour une décision la fois d'après. Voilà. En tout cas, que chacun puisse déterminer ça et ensuite de construire l'ordre du jour en fonction des priorités. En tout cas, ça demande effectivement du discernement ou alors ça veut dire que soit le timing de réunion prévu est trop court et qu'il faut revoir cela, soit qu'il y a d'autres modalités dans l'organisation à mettre en place pour peut-être des fois par deux, par trois, ça peut des fois être suffisant pour traiter les choses ailleurs que dans l'espace de réunion. Il y a des réunions que je vais appeler plutôt créatives, où on va chercher des nouvelles idées, on va essayer de faire des pas de côté, voilà. Et puis les réunions de décision, où là on va finaliser une discussion, un débat pour pouvoir enclencher une décision et puis après comment on va s'organiser le plan d'action suite à la décision. Quand on parle de réunions participatives, je pense qu'on est sur ces trois derniers points. Comment on s'organise, comment on crée ensemble et comment on décide ensemble. Et du coup, les trois derniers types de réunions, elles se préparent. Et ça, c'est vraiment un point important. Et préparer une réunion, ce n'est pas que les contenus qui finalement appartiennent aux personnes ressources, mais c'est surtout réfléchir à quel processus on va mettre en place, quel temps on va déployer, dans quel ordre on va traiter les points et comment on va s'y prendre pour que les gens puissent réellement contribuer, en fait.
Un autre point abordé comme étant vraiment structurant pour la réunion, c'est l'attention portée à ce que chaque personne se sente à l'aise. Comment exercer cette vigilance essentielle?
Faire en sorte que chacun soit à l'aise, c'est déjà les accueillir. C'est ensuite veiller à ce qu'il y ait des interactions entre les personnes, c'est-à-dire qu'elles se connaissent, et si elles ne se connaissent pas encore, mettre en place quelque chose pour qu'elles puissent faire connaissance. C'est qu'elle soit au clair avec qui est l'animateur, l'animatrice, et si celui-ci ou celle-là n'est pas le leader habituel, président, directeur, etc., qu'on clarifie les rôles, en fait, ça c'est quelque chose d'important, pouvoir se situer dans le groupe, on a besoin d'avoir des rôles clairs, c'est de mettre un cadre, en fait, dans le cadre il y a à la fois les horaires, se dire on commence à telle heure et on finit à telle heure, et de tenir l'horaire, pas se dire on finit à 18h puis à 19h on y est encore. Tout ce qui va apporter du cadre et de la structure est sécurisant, tout ce qui va apporter de la reconnaissance aux personnes et tout ce qui va apporter ce que j'appelle de la stimulation, donc de varier les temps, de faire en sorte que la réunion soit vivante et aussi la convivialité qui en fait partie en fait, à la fois de cette reconnaissance et de cette stimulation pour trouver le plaisir de se retrouver, outre le fait de traiter les points qu'on a à traiter.
Quel type d'exercice peut concrètement favoriser à la fois cette confiance dans le groupe et peut-être l'expression de la vision de chacun ou de ses attentes?
Ma préconisation, c'est d'abord de trouver ce que j'appelle des outils, des processus, des exercices qui sont adaptés à la culture du groupe. Par exemple, si on fait un exercice où on doit se toucher et que les gens détestent ça, mais on ne va plutôt pas les mettre à l'aise du tout, on va être à côté de ce qu'on cherche à faire. Donc adapté à la culture du groupe, adapté à la taille et adapté au temps qu'on a. Mais dans ce que je peux citer, il y a quelque chose qui qui est très important, c'est de donner du temps à chacun pour se poser avec le sujet. Par exemple, j'ai un sujet à traiter dans cette réunion-là, de poser 2-3 questions clés au regard du sujet, de proposer aux personnes de prendre un temps de réflexion individuelle pour réfléchir au sujet, et ensuite un temps de partage où chacun va donner sa réponse, et surtout là il faut éviter que les personnes rebondissent. Donc c'est vraiment donner les consignes en disant chacun va prendre sa place de parole pour dire ce qu'il a à dire avec un temps qui sera équitable, et une fois seulement qu'on a écouté chaque personne, alors là le débat, la discussion peut commencer. Alors cet exercice il a quoi comme intérêt? C'est que habituellement le premier qui parle c'est celui qui sait le mieux ou qui a le plus l'habitude de parler, et puis le suivant va réagir, et puis souvent lui il va réagir, et on va assister à un ping-pong où des fois un troisième ose s'immiscer au milieu, et ça va pas ouvrir le sujet en fait, ça va le coincer dans de la réaction à une première parole, une deuxième parole. Si on veut être dans de la co-construction, il est intéressant de s'ouvrir à toutes les pensées, et c'est pas parce que je penserai différemment des autres que j'aurai tort. La minorité n'a pas tort, elle est juste moins nombreuse et donc elle a moins de rapport de force, mais elle a pas forcément tort. Donc c'est intéressant d'écouter chacun et que chacun entende et ouvre ses perspectives en fait. Ah tiens, là il dit quelque chose auquel moi j'aurais pas pensé, mais ah ouais, ça peut me permettre de me faire un petit pas de côté. Et je suis en sécurité parce que je sais que j'aurai aussi mon temps de parole. Ça a une autre vertu, c'est que ça permet à ceux qui ont moins la facilité de s'exprimer, de pouvoir le faire parce qu'ils ont eu ce temps de réflexion personnelle, individuelle, avant de poser une parole.
Comment faire pour finalement se mettre à la place, ou en tout cas accepter de porter attention au point de vue de l'autre, à sa parole et peut-être aussi à son intention?
Oui, c'est une question très importante, ça touche la question des représentations. Quelle est ma représentation du monde et comment je regarde la représentation que l'autre a du monde? Et dans une réunion, quand on regarde l'objet par exemple, et même ailleurs que dans la réunion, on regarde un objet, on va regarder l'objet avec son prisme et je ne vais le voir que partiellement en fait. Et parfois, il suffit de changer de place. Tiens, ben on peut le faire nous aussi là. Changer de place pour voir quelque chose que je ne voyais pas de là où j'étais. On essaye ? Allez, bougeons. Okay. Alors, moi jusque-là, je voyais une maison, puis je voyais un marchand de tissus. Je change de place. Et maintenant, je vois un marchand d'olives. Je vois un charcutier. Et je vois une tour en construction que je ne voyais pas tout à l'heure. Et je suis en train de me dire, mais ça, lui, il voyait ça. Donc, quand peut-être il me parlait de sa tour en construction que je ne voyais pas, j'étais à mille lieues d'imaginer de quoi il me parlait. Et j'étais arc-boutée sur mon marchand de tissus, moi, pendant ce temps-là.
Dans cette contribution, un thème revient souvent dans le livre, c'est celui de co-responsabilité. Comment préciser cette chose importante, cette notion importante?
Oui, alors, parce qu'on parle de coopération, parce qu'on parle de réunion participative, donc moi j'introduis beaucoup cette notion-là, de dire je ne vais pas tout attendre de l'animateur, mais j'ai aussi ma part de responsabilité dans mon attitude pendant la réunion. Est-ce que ma parole va être constructive? Est-ce que ma parole va permettre de faire avancer les choses? Ou est-ce que je me positionne en montrant que mon opinion elle est plus valable que celle de l'autre? Ou est-ce que je vais mettre en compétition? Est-ce que je vais répéter des choses qui ont déjà été dites? Enfin voilà. Donc ça, c'est déjà une part de sa responsabilité. Hein. C'est en tant que participant, comment je me préoccupe de ma parole. La co-responsabilité, ben, elle est aussi dans prendre en charge des rôles. En fait, il n'y a pas qu'un seul rôle hein, dans une réunion. Il n'y a pas que animer la réunion. Il y a prendre des notes, il y a être gardien du temps, veiller à ce qu'on avance sur les points. Il y a la personne ressource. Je pense que le rôle de l'animateur ou de l'animatrice est d'être garant de la dynamique du groupe, donc de permettre que le sujet avance au regard du sens et du pourquoi on est ensemble. Et moins il en sait sur les contenus, et mieux il peut être attentif à la dynamique de groupe et à ce qui est en train de se jouer. Le rôle de l'animateur, c'est de mettre en cohérence le pourquoi, donc le sens, le comment, le processus, et le quoi, c'est-à-dire le contenu.
Dans l'animation des réunions, ce qui souvent effraie les participantes et les participants, ce sont les tensions, les conflits. Comment, dans la dynamique du groupe, peut-on prévenir, réguler ces moments plus difficiles?
tout ce qu'on fait en prévention, évite de les gérer, parce que les gérer, c'est pas toujours facile. Maintenant, quand il y a des tensions, soit elles peuvent être liées à l'objet même de la réunion, mais des fois, elles trouvent leur source un peu ailleurs. Et il s'agit aussi d'être vigilant à pas... à se dire, est-ce qu'on est au bon endroit et avec les bonnes personnes pour gérer une tension, un conflit qui pourrait peut-être qu'exacerber les problèmes. Donc il faut faire attention à l'amplification émotionnelle. Donc c'est intéressant de les noter. Des fois, en tant qu'animateur, animatrice, si on se sent assez à l'aise, de pouvoir dire, là, je sens des tensions, qu'est-ce qu'on peut en faire, en fait. Là aussi, c'est de la co-responsabilité, hein, ne pas faire comme si elles n'existaient pas. Après, il y a des tensions qui ne sont pas inintéressantes. Hein. Il y a des moments un peu conflictuels sur les idées qui échauffent et qui sont stimulantes. Hein. Donc, il faut pouvoir sentir dans l'atmosphère qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est au contraire dommageable pour le groupe. Se dire, tiens, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, ça s'appelle se mettre en position méta, c'est-à-dire quitter la discussion elle-même pour regarder qu'est-ce que le groupe est en train de vivre. Il y a une chose aussi, quand je parlais de prévention, une chose aussi dans la préparation de la réunion, ça vaut le coup de se poser la question, c'est pas que ça vaut le coup, c'est vraiment très important, de se poser la question de dire qui vont être les participants, quels sont leurs enjeux, d'essayer d'imaginer quels sont leurs enjeux par rapport à cette réunion-là, surtout quand on a des parties prenantes différentes. Et ça veut dire que je dois connaître mes participants et que la réunion ne se prépare pas la veille au soir, parce que si j'ai des doutes, eh bien, j'ai peut-être besoin de les rencontrer avant pour leur demander. Et je pense que quand les gens se mettent en tension, c'est qu'ils ont peur, souvent, hein, c'est une hypothèse, hein, je ne généralise rien, mais il pourrait y avoir de la peur de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, de ne pas être pris en considération. Si j'ai été pris en considération en amont, si je sais que l'autre va m'écouter parce que l'animateur a créé un espace pour que je sois réellement écoutée, ça peut vraiment changer la donne.
Dans certains cas de tension, il y a aussi des régulations par rapport au cadre qui n'est pas respecté.
Oui, c'est une question importante, la question du cadre qui pourrait ne pas être respecté. Alors, on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que se donner des règles de vie de groupe est un essentiel pour pouvoir bien travailler ensemble. Si c'est un animateur, animatrice qui dit « voilà comment on va fonctionner ensemble et voilà le cadre », par exemple, on doit s'écouter, on ne se coupe pas la parole, on a une parole concise. Ça crée un cadre descendant, donc je vais pas obtenir de la participation si je suis dans une posture descendante. Donc si je veux de la participation, c'est de quoi vous auriez besoin pour que votre parole soit sécurisée, en fait, hein, par exemple. Ça peut être une façon de poser la question. Il ne s'agit pas d'être coincé avec notre cadre, il s'agit juste de pouvoir se dire immédiatement « Eh oh, là, on s'était dit qu'on ne se coupait pas la parole et là, on est en train de se couper la parole ». Généralement, quand on le fait comme ça, c'est plutôt joyeux, c'est plutôt light. Et ça évite à l'animateur, à l'animatrice de tout porter sur ses épaules et devoir faire taire ce qui causerait trop ou qui se répéterait. Parce que ça, effectivement, ça met dans une posture très inconfortable. Les points essentiels de manière très pratique qui vont aussi contribuer à la réussite de la réunion, c'est déjà les dates et les horaires, en fait, hein, de se vérifier qu'ils conviennent, qu'ils sont respectés, respectables des emplois du temps des uns et des autres. Bon, on peut pas toujours. On va parler de l'idéal, hein, on fait au mieux. Hein, de toute façon, dans une réunion, on fait au mieux. Ensuite, il y a les conditions matérielles, d'avoir une salle adaptée. Et la salle, elle va aussi raconter qu'est-ce qu'on cherche à faire. C'est pas pareil d'avoir un cercle de chaises que d'avoir une tribune avec des chaises alignées. Ça dit déjà qu'on va pas faire la même chose. Hein. Ça va être de veiller à ce que ce soit un peu confort aussi. Hein. Très souvent, les réunions se passent dans des salles improbables avec des chaises où on va être mal pendant 3 heures. Bon, ça aide pas à mettre son énergie au service de l'activité. Et puis aussi, avoir un tableau pour écrire, ça c'est un truc très important. Prendre des notes, que quelqu'un prenne des notes en live, alors ça peut être un tableau, comme ça peut être à l'écran, quelqu'un qui saisit, qui gagne du temps après sur son compte-rendu d'ailleurs. Mais que tout le monde voit ce qui est en train de se passer. Ça diminue sacrément les reformulations, enfin les faits que les gens redisent la même chose, parce qu'ils voient, et puis ça rassure, parce que mon propos il a été écrit, donc c'est bon, je suis tranquillisée.
Parmi les essentiels, donc, les pauses.
Alors, on a trop souvent la croyance de penser que on sera plus efficace si on n'arrête pas de bosser. Et puis, alors, la réunion est à 9h, puis à 9h pile, on attaque le premier point de l'ordre du jour. Alors, non, d'abord, si on veut que la réunion commence à 9h, c'est bien de dire aux gens de venir un quart d'heure, une demi-heure avant pour prendre le café, boire le thé, se dire bonjour, se donner des nouvelles. Et puis ensuite, on peut enfin être efficace à 9h. Se donner des temps de respiration. Alors les pauses, c'est pas forcément 9h midi, donc la pause elle sera pile à 10h30. Non, c'est de se dire, tiens, là on vient de traiter un sujet lourd, un sujet difficile, même si ça fait une demi-heure qu'on est ensemble, prenons un petit temps d'aération. Et puis, il ne faut pas oublier, voilà, il y a les gens qui ont besoin de fumer. Il faut aussi leur permettre des pauses, sinon ils vont être énervés.
On peut dire que, finalement, l'image de la vie coopérative peut être à l'image d'une réunion, à une échelle où va se mettre en place à la fois la place de chacun, la contribution, la parole qu'on peut s'offrir plutôt que se prendre ou la couper ou la donner. Et avec peut-être cette complexité dans les SIC d'avoir des parties prenantes qui ont peut-être des cultures, des habitudes de travail, des expériences de réunions différentes et aussi une représentation qui peut être assez distincte des enjeux d'une réunion comme du projet de l'entreprise.
Merci Béatrice pour ces clés et ces conseils qui d'ailleurs pourraient être utiles pour toutes les organisations, toutes les entreprises qui souhaitent promouvoir des réunions efficientes, participatives et conviviales. Cependant, on peut estimer que pour toutes les coopératives, la spécificité concerne l'attente et l'intérêt d'une véritable participation. Pour les SIC en particulier, s'ajoute la diversité des participantes et des participants aux réunions, dans leur lien à la coopérative, mais aussi en général dans leurs habitudes de travail. Pour aller plus loin, son ouvrage Béatrice Poncin, Plaisir d'être en réunion, animé et participé, édition du Croquant 2010, mais aussi les travaux de Jean-Michel Cornu, notamment le guide de l'animateur, une heure par semaine pour animer une grande communauté, FIP Édition 2016.